à la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC.
L'intégrale Rio 2016 continue sur RMC jusqu'à 4h du matin et on accueille Olivier Giraud tout de suite.
Salut Pierre.
Ça va Olive?
Écoute, ça va.
Faut apprendre à perdre. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais.
Bah écoute, c'est comme ça. Ce qui était étonnant, c'est que j'ai été vraiment triste. Triste pour eux, triste pour, enfin, voilà, des mecs où on aurait voulu que l'aventure se termine mieux et, mais en face, il y avait une belle équipe. Il y avait une belle équipe et il fallait jouer à un beau niveau et l'équipe de France n'a pas su accélérer comme elle a l'habitude de le faire au moment où il aurait fallu.
Alors justement, on s'est fait la réflexion en regardant le match. Dans le dernier quart du match, hein, dans les 15-20 dernières minutes, on se faisait la réflexion. Si on arrive à repasser devant, les Danois, ils sont morts. Sauf que, d'une part, on a eu très peu d'occasions de repasser devant. Et les quelques occasions qu'on a eues, je pense notamment à un tir de Lucas Ballot.
Oui, celui-là, il est marquant parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'avoir ce.
De revenir à un but ou à égalité.
Non, mais là, c'était pour égalité. Et ça a duré. Pratiquement 5 minutes où à chaque fois on avait le ballon pour pouvoir égaliser, soit il y avait un passage en force, soit il y avait une balle perdue et on a raté tous ces petits coches, tous ces petits moments qui sont si importants dans un match, dans une finale et il fallait pas compter sur les Danois pour te laisser 15 chances à la suite et les Danois méritent leur victoire mais complètement parce que sur l'ensemble du match, c'est eux qui ont fait le match le plus complet.
Alors je vais te dire moi ce que je retiens de positif dans cette défaite qui fait mal. D'une part, c'est la réaction des joueurs français, franchement, bravo, parce que première chose qu'ils ont dit, c'est que les Danois méritent d'être champions olympiques. Il n'y a pas eu de pleurnicherie, il y a pas, voilà, c'est comme ça. Et après, avec un tel palmarès, ça doit pas être si facile. Deuxièmement, moi je trouve ça génial malgré tout pour Mikkel Hansen, qui est un très grand champion, qui a pas la chance d'évoluer dans une équipe comme l'équipe de France pour lui permettre d'avoir autant de titres. Et puis troisièmement, finalement, ça montre à quel point c'est dur.
C'est dur
de gagner des titres et ça montre à quel point tout ce que vous avez fait jusque là est exceptionnel.
Ouais, c'est tellement compliqué et c'est tellement exceptionnel d'avoir réussi à le faire tellement de fois que c'est vrai on arrive à banaliser les choses très rapidement mais tu vois ce qui change par rapport à une certaine période où on n'avait pas l'habitude de gagner, c'est dur de perdre quand tu commences à prendre l'habitude de gagner, mais par contre tu regardes l'équipe lorsqu'elle perd et moi ce que j'ai aimé comme toi c'est la manière dont ils ont perdu et la manière dont ils ont accepté cette défaite. Ils cherchent pas d'excuses, il y a des petits trucs litigieux où ils auraient pu récupérer des ballons, les arbitres ne l'auront pas donné, mais nous on dit toujours si à un moment c'est pas toi qui fais le match, il faut pas espérer à ce que les arbitres le fassent pour toi, et donc ils n'ont même pas pleuré là-dessus et voilà, c'est dur à vivre, c'est toujours dur de perdre hein, de toute manière Pierrot, toujours dur de perdre, surtout quand tu te mets des objectifs et eux ils ont jamais parlé de médaille d'or, ils ont essayé d'aller au bout, on va essayer, mais il manquait la petite flamme pour aller tout au bout mais je suis fier de ces mecs, je suis fier d'eux quand même, même si on aurait espéré qu'ils aillent un peu plus loin.
Alors il y a aussi autre chose finalement qui va peut-être les aider à rebondir, c'est que le mondial est en France le prochain. Pour une génération qui gagne tout, rebondir après un échec, ça peut être très difficile, ça peut être le début de la fin, une fin de cycle ou qu'importe, que sais-je. Le fait que le mondial soit en France va éviter, je pense, de toute façon une démobilisation générale.
Non, il n'y aura pas de démobilisation générale. Tu sais, on s'est pris des doudounes pendant des années et des années, à chaque fois on revenait. Hein. On devait être un peu sado, mais on devait être un peu maso, mais on revenait à chaque fois. Donc c'est pas après une médaille d'argent que tu vas parvenir quand même, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est oui. Une médaille d'argent, c'est vrai que c'est la déception quand même, parce que on espère toujours aller plus loin et ils voulaient écrire l'histoire, mais ça reste une belle médaille d'argent et dans 6 mois il y a ce mondial en France, et surtout ils vont avoir ce temps pour préparer leur mondial, se préparer, digérer tout ça, absorber et savoir pourquoi à certains moments ils ont été un peu plus friables qu'à l'accoutumée, parce qu'ils l'ont été plusieurs fois dans cette compétition, bien qu'ils soient allés en finale, pour arriver au mondial et être les plus forts.
Olivier Giraud, Isabelle Severino, le début de la cérémonie de clôture au stade Maracana. On va retrouver Gilbert Bribois qui est illuminé des couleurs de l'Olympisme. Gilbert.
Salut. Ah oui, bah oui, c'est parti, ça y est. Ici au Maracana, cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, donc qui a démarré il y a quelques minutes maintenant. On va se remémorer quelques-uns des grands moments des Jeux. Il y aura les athlètes qui vont venir, comme l'a dit Francis Huyss il y a quelques instants, dans un grand bordel organisé, parce que c'est souvent ça les cérémonies de clôture. Et il y aura Thierry Riner, porte-drapeau donc, et puis il y aura la passation de drapeau avec Tokyo, donc, qui recevra les Jeux dans 4 ans dans un stade d'Arakana qui est quasiment plein. C'était avec la cérémonie d'ouverture et la finale du foot, les billets les plus chers. Et pourtant, je sais qu'à la minute, ils étaient chers.
Bon.
Donc il y a du monde ce soir ici, dans un quartier qui était, comment dirais-je, du Maracana, compliqué d'accès, et où il y a eu une immense panne de courant également il y a quelques minutes, sauf dans le stade.
Oulala.
Donc vous savez qu'il y avait des conditions météo un peu compliquées cet après-midi à Rio, beaucoup de vent. Donc on a peut-être quelques délestages, comme on dit en Afrique.
Des délestages, c'est comme ça qu'on dit. Très bien. Gilbert Bribois donc pour la cérémonie de clôture avec Isabelle Severino et Olivier Giraud, Antoine Arlot et Nicolas Jamin seront également là pour vous emmener ensemble jusqu'à 4h du matin. L'intégrale Rio 2016 continue sur RMC.
RMC, radiodiffuseur officiel des Jeux Olympiques de Rio 2016. RMC Intégrale Rio 2016, Gilbert Bribois.
Avec Olivier Giraud et Isabelle Severino, vous m'entendez ?
Yes, on t'entend.
Alors, je suis moi au Maracana, bien sûr, on a un problème technique là, mais on va régler ça, j'espère, dans les secondes qui viennent. La cérémonie de clôture a donc démarré, on a vu Thomas Barr, il y a eu un premier tableau. Et il y a quelques instants, et on va enchaîner dans quelques secondes. Olivier, Isabelle, dites-moi un peu ce que... Ah voilà, ça y est, merci. Ouh, j'ai plus d'écho. Non, j'avais un écho dans les oreilles, vous savez, c'est vous pouvez pas parler quand vous avez un écho dans les oreilles, parce que vous avez l'impression de vous réentendre. Bref, voilà, ça y est, c'est réglé. Bon, donc on va pouvoir y aller pour de bon. Alors,
pas de souci, on est là.
Merci d'être là, puisque je vais avoir Nicolas Jamin et Georges Quirino avec moi. Mais Georges Quirino est dans les bouchons. Voilà, il est dans les bouchons, le mec.
Ah voilà, les bouchons ici, hein, c'est quand même la grande histoire de nos jeux, quoi.
C'est vrai, c'est un peu le pays des bouchons. Donc Georges est dans les alentours du stade. Il va arriver d'ici peu avec Nicolas et on va vivre cette soirée ensemble. Et surtout vous au Club France, vous allez pouvoir nous ramener un peu de dynamité. Les gens que vous aimez bien, vos coups de cœur, tous les gens qui traînent là à côté du studio RMC, vous nous les amenez.
J'aime personne.
Oui, ça c'est vrai. Alors prends n'importe qui, et tu les amènes quand même. Voilà.
Non mais il y a les handballeurs là déjà qui vont pas tarder à arriver. Ils sont partis à 7h30 du village. Alors après problème de bouchon certainement.
Ils devraient être là dans 5h.
Voilà, il devrait être là dans 5 heures. Donc
très bien, juste donc on sera couché, donc c'est aussi bien. Voilà, et puis il y aura peut-être Tony Yoka qui va passer, bien sûr, d'autres médaillés, d'autres sportifs. Parce que la cérémonie de clôture, enfin, vous qui avez participé aux Jeux Olympiques comme athlète, voilà, autant la cérémonie d'ouverture, tout le monde a envie d'y aller, autant la cérémonie de clôture, c'est pas forcément le truc le plus sexy pour les athlètes.
Ah bon, quand tu fais pas la cérémonie d'ouverture, je peux te dire que tu es très content de faire la cérémonie de clôture, parce que aller dans ce stade et partager ça avec tous les athlètes, alors après, il y a pas mal d'athlètes qui s'en vont durant les Jeux Olympiques juste après leur épreuve, il y en a qui restent juste au bout justement pour faire cette cérémonie de clôture.
Alors moi je suis pas du tout Isabelle
c'est normal.
Moi je peux te dire la cérémonie de clôture, je savais même pas que ça existait.
C'est normal, vous. Mais oui, mais toi t'as le sport qui finit le dernier jour et où de toute façon c'est trop compliqué.
Non, on nous l'a proposé à chaque fois, la cérémonie de clôture. Non, pas là. Non
mais en fait vous profitez tellement pas des jeux finalement vous dans le balleur, parce que vous êtes en compétition jusqu'au dernier jour, que je peux tout à fait comprendre que tu as envie de retrouver ta famille, voilà, et pas d'être dans un truc un cérémonial, alors que pour beaucoup d'athlètes c'est quand même hyper sympa d'être au milieu du stade. Moi je sais pas, j'avais fait la cérémonie de clôture à Athènes, c'était un truc de dingue. On avait fait la cérémonie de clôture à Atlanta avec Céline Dion qui était à 20 mètres de moi, enfin je sais pas, moi
Céline,
la Céline, elle était là. Oui, Tabarnak, elle était là.
Mais non, moi c'est pas pour aller voir ma famille que j'avais pas envie de la faire, c'est la cérémonie de
clôture. Le problème c'est que les handballeurs en général le dernier jour ils démontent le Club France, donc
tu sais que nous on a notre cérémonie de clôture à nous, hein, qui est sous une autre forme. Voilà.
Alors,
je vous entends,
tiens, je vous entends. Tiens, écoutez-moi cet hymne brésilien. C'est le dernier de la quinzaine. Et c'est parti donc pour démarrer cette cérémonie.
qui s'est composé à partir de milliers de points jaunes, verts, bleus et blancs ici au Maracana. Maracana donc de Rio, où s'est déroulé hier, Olivier, la finale du foot, hein. C'est ici même que Neymar donc a marqué son but, a marqué son tir au but, a pleuré, a pris sa médaille, a mis son bandeau I love Jesus, qui a fait polémique.
Gilbert, tu voulais, ouais. Spielberg, il aurait voulu écrire le film des JO, il aurait écrit comme ça pour Neymar, hein. C'était c'est juste hallucinant, ouais. Hallucinant, ouais. La manière dont ça s'est passé.
Et t'as vu que cet après-midi il était au volet au Maracanã, ouais. Il y avait la finale entre le Brésil et l'Italie.
Bon,
et
Neymar, il était on l'a entendu, ouais,
voilà. Hein. Et ben voilà. Et il y avait Neymar, en fait, il était premier supporter. Et on voyait presque plus Neymar que le match, tu vois. Et du coup, Neymar était, voilà, au premier rang, à sauter sur les mecs. Enfin, c'était, voilà. C'était le week-end Neymar, ici à Rio. Et c'est vrai que ça s'est fait en même temps que la finale du hand. On va voir là. Voilà, on fait entrer les athlètes tout de suite. Donc, voilà. Alors là, comment décrire ça? Ça rentre dans n'importe quel sens. Pour les Grecs, quand même, en premier. Avec des porte-drapeaux. Alors il y a certaines délégations où les gens sont tout seuls. Ah oui, non, mais d'accord. On fait juste rentrer les porte-drapeaux. Les athlètes rentreront après. Donc, alors j'ai la liste des porte-drapeaux. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, il y en a quelques-uns qu'on connaît pas. Pour la Grèce, c'est par exemple Ekaterina Stefanidi qui hier a été sacrée championne olympique de saut à la perche. Et ouais, et qui a le drapeau grec là. Il y a pas mal de délégations qui sont déjà rentrées chez elles. Hein. Donc c'est un volontaire qui porte le drapeau. Par exemple, les Afghans, bah, ils sont déjà barrés. Eux. Les Bermudes, il n'y a plus personne non plus.
Comme disait Isabelle, hein, tout le monde a envie de faire la cérémonie de clôture.
Voilà, les Qataris, hop, sont déjà partis. Bon, cela dit, c'était pas en finale du hand. Hein. Peut-être que
c'est vrai, c'est pas fait.
C'est pas fait. Qatari, voilà, salut. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme porte-drapeau? Donc là, on fait rentrer dans le stade Maracana tous les porte-drapeaux. Donc je rappelle qu'il y avait 208 délégations ici à Rio, c'est un record. Après, les athlètes viendront se positionner. En fait, on a placé des milliers de chaises en plastique blanche, en fait, sur le terrain, qui est recouvert, évidemment, de grandes plaques grises ce soir. Et les athlètes vont venir s'asseoir, en fait, dans quelques minutes, tout autour, donc, de ce grand ovale où va se dérouler la suite de la cérémonie de clôture dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme porte-drapeau, là? Enfin, vous dire quand même qu'évidemment on attend tout à l'heure Teddy Riner. Est-ce que je le vois là, Teddy Riner? Non, pas encore. Parce qu'en plus on n'a pas fait ça par ordre alphabétique, hein, bien sûr, pour arranger le coup. On a fait ça dans le désordre. Donc là pour l'instant, pas de Teddy Riner au loin à venir. Tiens, c'est Caster Semenya qui porte le drapeau sud-africain, elle aussi championne olympique il y a quelques heures à peine du 800 mètres. Et Nafis Atoutiam qui porte le maillot de le drapeau de la Belgique, elle qui a gagné l'heptathlon, rendant dingue les commentateurs belges. Voilà. Et vous entendez les athlètes. Ils sont là, les héros des Jeux Olympiques, qui dit le speaker, les athlètes qui arrivent donc dans quelques instants et qui vont venir s'asseoir. Voilà. Voilà, je vais également donc essayer de vous faire vivre ce qui se dit dans le stade, puisque pour l'instant je suis tout seul avec Olivier qui lui est au Club France. Mais on va avoir du renfort bientôt. Hein. Voilà. En fait, il nous faut un petit bisutage, tu vois, les mecs là, Olivier, hein, pour finir les jeux. Sinon, on va les laisser se débrouiller tout seuls, ces deux-là. Donc on va tenter de le faire. On va tenter de le faire tranquillement. Tiens, la porte-drapeau des États-Unis, c'est Simone Biles, la jeune gymnaste que je vois là devant moi, qui donc elle a battu un record puisqu'elle a remporté 4 médailles d'or à la gym dans ces jeux-là. Et il y a également Alma Zayana qui est la porte-drapeau de l'Éthiopie, qui a remporté le 10 000 mètres à la clé en explosant le record du monde. Alors durant cette nuit olympique, on va également vous faire réécouter quelques-uns des grands moments de ces Jeux olympiques. Donc quelques-uns des grands moments de direct, quelques-uns des grands moments de talk, d'interview durant ces jeux. On va réentendre tout à l'heure tout ça, bien sûr, avec vous. Si vous êtes en voiture, si vous êtes chez vous bien installé, vous allez pouvoir revivre tout ça. François Giuseppi est également là en direct du Parc Olympique. François, bonsoir. François, est-ce que tu m'entends? Non, ben, en fait il est pas là. Olivier, toi tu es là.
Ah bah moi je suis là, ouais, je suis attentif, je t'écoute, je lis. Je suis tout oui.
J'ai un peu un sentiment de grand vide là pour vous dire la vérité.
Par contre, tu me disais un truc, ouais. Les États-Unis, ce n'était pas le même porte-drapeau.
Non, c'était Phelps.
C'était bien Phelps.
C'était Phelps, effectivement. C'était Phelps. Et alors tiens, est-ce qu'on a un premier peut-être un premier moment de direct à vivre là tiens, je vous propose de réécouter deux choses, tout de suite. Si vous n'étiez pas avec nous aujourd'hui, un des grands moments de la journée, c'était bien sûr le titre olympique de Tony Yoka médaillé d'or, et tout à l'heure ils étaient à l'antenne avec sa compagne Estelle Mosselli, puisque c'est quand même l'une des belles histoires des Jeux Olympiques, le couple en or, donc Tony Yoka et Estelle Mosselli. Yoka qui va arrêter sa carrière de boxeur amateur pour passer pro, et quand on regarde le palmarès des Jeux Olympiques, on se rend compte qu'il y a quand même dans le palmarès quelques poids lourds passés pro qui sont devenus champions du monde, comme par exemple Klitschko, comme par exemple
Mohamed Ali.
Comment s'appelle-t-il ce britannique là, surpuissant, je vais retrouver son nom dans quelques instants. Bref, il a quand même une belle carrière qui s'ouvre devant lui. Écoutez, c'était tout à l'heure sur RMC, Estelle Mosselli et Tony Yoka qui dialoguaient donc après leur médaille d'or. Salut Tony.
Salut.
Quel bonheur hein.
Super, franchement tant d'émotions.
T'en es où là exactement? Tu redescends de ton nuage, tu es encore
là,
dans l'euphorie?
Pas encore, parce que voilà, tout le monde me saute dessus, ça prend des photos, je prends mes parents dans les bras, toute ma famille, donc voilà, j'ai pas eu encore vraiment le temps de faire redescendre la pression.
Dis-moi, t'es voilà. Un sacré chanceux quand même, ta compagne, qui en plus a une médaille d'or, t'as tes potes, t'as des légendes du sport olympique, Teddy Riner, Brahim Asloum, toute l'équipe de France, des supporters, tu pouvais pas rêver mieux quand même.
Franchement, je pouvais pas rêver mieux comme sacre. Maintenant, voilà, j'ai bossé pour. Hein, on a fait énormément de sacrifices, Estelle et moi, pour que nos familles puissent venir ici. Il y a plus de 22 personnes qui sont venues. Au fur et à mesure des tours qu'on passait, on voyait que les potes, ils supportaient. Ils se sont dit bon, nous on a fini nos compétitions, comme Teddy, comme Harold Correa, comme Grégory Bogier. Ils se sont dit pourquoi pas, c'est juste à côté du village, pourquoi pas venir et supporter, donner de la force quoi.
Ouais, pourquoi pas venir, c'est peut-être un des temps forts aussi des Jeux Olympiques. C'était
le dernier jour, c'est la dernière médaille d'or possible. Donc voilà, ils sont tous venus, ils les ont tous entendus. Et franchement, sur le ring, j'étais transcendé, j'étais plus moi-même.
Qu'est-ce qui t'a le plus porté dans ce tournoi olympique? Est-ce que c'est la présence d'Estelle? Est-ce que c'est cette solidarité de l'équipe de France? Ou
c'est
encore
tout.
Autre chose?
Tout, vraiment, toute cette équipe. Cette équipe, elle a été magnifique. Ça fait 4 ans qu'on bosse. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a commencé de très très bas parce qu'on avait une équipe toute nouvelle avec moi qui avait fait les Jeux Olympiques. J'étais plus ancien. Il fallait repartir de zéro avec des jeunes. On a vraiment beaucoup bossé. On s'est accrochés les uns les autres. On s'appelle la team solide. Et Estelle, parce que forcément on vit ensemble, on mange ensemble, on s'entraîne ensemble, on fait tout ensemble. Et aujourd'hui, d'être les deux seuls médaillés d'or de la boxe, c'est magnifique. On se dit que putain, on l'a fait.
Tony, je voudrais que tu me donnes 2-3 explications sur ce que tu as dit tout à l'heure en direct, parce que je veux savoir ce qui se passe avec ta cheville. On rappelle qu'en demi-finale, elle a un peu tourné. Tout de suite, tout le monde a été très rassurant en disant c'est pas grand chose, ça ira pour dimanche, etc. Là, tu nous as dit que tu avais un ligament arraché.
Ah ouais. J'ai fait une écho le soir du combat, j'ai un ligament arraché. Et voilà, il me restait un combat. Je me suis dit qu'après tout ce que j'ai enduré, c'est pas un ligament qui va m'empêcher d'aller chercher ce titre olympique. Donc voilà.
Mais du coup, ça t'a gêné pendant le combat?
Franchement, écoutez, à chaque fois que j'ai une blessure, que ce soit au pied, à la main, à la tête, et que je suis monté sur le ring, je suis tellement déterminé que je le sens plus.
T'as boxé strappé ou que t'as une protection quand même?
J'ai boxé strappé, j'avais du mal à marcher ce matin. Mais ça s'est même pas vu sur le ring parce que voilà, j'y suis allé à fond et je me suis dit s'il faut qu'elle pète aujourd'hui, elle va péter.
C'est arraché ou c'est déchiré?
Le ligament est arraché.
D'accord, donc là,
ça s'est pas vu en tout cas.
Enfin, non, bah non, c'est clair que non. Bah non, forcément, je t'ai dit.
Je vais essayer de boxer avec un ligament arraché, moi aussi, Pierrot, on va voir.
En finale des championnats du monde, j'avais la main pratiquement pétée, je me suis fait infiltrer une demi-heure avant et pourtant, ça m'a empêché de gagner.
Tu as dédié un peu cette victoire et vous l'avez tous un peu fait à travers vos médailles. Alexis Vastine, s'il était là aujourd'hui avec nous, enfin, je sais qu'il est là, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Je jure qu'on l'a fait. Ça n'a pas été top pour lui sur les deux Olympiades qu'il a fait. Maintenant, voilà, on a voulu faire tout ça aussi un peu pour lui et dédicacer nos médailles à Alexis parce que 6 médailles, c'est un record, et surtout 2 en or. On sait très bien qu'à Pékin comme à Londres, il aurait certainement une médaille d'or s'il n'y avait pas eu ce problème d'arbitrage. Donc on tenait à en ramener quelques-unes en or pour pouvoir lui dédier.
Et donc les 2 en or, c'est pour Tony qui est avec nous et Estelle, sa compagne, qui normalement a dû nous rejoindre. Estelle.
Oui, je suis là.
Salut Estelle.
Bon, alors là, c'est carton plein. Là, qu'est-ce que vous devez vivre un truc, mais complètement.
En fait, ils ont les noces d'or, même le mariage.
C'est exactement ça. Bravo Isa. Tu vis un truc de dingue là, Estelle, non?
Ouais, c'est magique. C'est magique. C'est tellement de travail derrière tout ça. C'est un objectif qu'on s'était fixé depuis très longtemps. Même avant d'être champion du monde, on parlait des jeux et on s'est dit, imagine, on devient champion ensemble. Imagine, on ramène 2 médailles d'or à la maison. La joie que ça pourrait nous procurer, que ça pourrait procurer à tout notre entourage, à nos proches, à notre famille et à tellement de gens qui peut-être s'identifieraient à nous et auraient envie d'accomplir leur objectif, d'accomplir leur rêve. On l'a fait, donc maintenant on savoure chaque moment, vraiment.
Comment tu as vécu la finale de Tony, Estelle?
Moi j'étais survoltée. J'ai crié, je pense que je ne me suis pas arrêtée une seconde de crier. Tellement j'avais envie de lui donner mon énergie, ma force et qu'il m'entende aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans le ring, on entend crier, mais on n'arrive pas forcément à distinguer les voix. Donc j'étais à fond, je voulais seulement qu'il gagne chaque round, qu'il passe au-dessus de voilà, des coups de l'adversaire, de peut-être ce mal qu'il avait au niveau de la cheville, puisqu'il s'était fait mal avant ce combat-là. Et ça a marché, et il a très bien boxé. Il a fait vraiment un très beau combat. Il a emporté le premier round, il a emporté le deuxième round, et au troisième, il fallait juste terminer le travail.
Alors, qu'est-ce qui est le plus stressant, Tony et Estelle? C'est de boxer soi-même ou c'est de voir l'autre boxer?
Ah, je pense que c'est de voir l'autre boxer, parce que quand on boxe, vous savez, à partir du premier coup de gong, le stress, il part. À partir du moment où on est dedans, on est vraiment concentré sur notre combat, le stress y part parce que voilà, on est concentré sur notre job. Et quand l'autre il boxe, on peut rien faire. On peut rien faire à part crier, et ça c'est super stressant en fait de ne pas avoir la même mise dessus. Quoi.
Pareil pour toi,
ouais.
Estelle.
Ouais, ouais, exactement. C'est quand l'autre boxe, c'est énormément de stress tout au long du combat. Ça reste un combat, hein. Donc il y a forcément le risque de prendre un mauvais coup. Et on a peur pour l'autre, toujours peur pour l'autre, toujours peur qu'il se fasse mal, qu'il surmonte pas les rounds. C'est très dur à vivre de l'extérieur, mais bon, la crainte disparaît au fur et à mesure des rounds quand on voit qu'il gagne.
Et par rapport à ça, comment t'as réussi toi à te remobiliser? Parce que voir Tony matcher dans sa demi-finale avant ta finale, je sais qu'il y a eu discussion à savoir est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. Vous deux, vous en aviez parlé ensemble aussi, vous avez pris la décision avec les coachs et les TN et tout ça?
Oui, après nous on a quand même cette rigueur et on connaît notre travail, on sait ce qu'on a à faire sur le ring, donc on savait qu'on pouvait boxer sur la même session. Moi je me suis renseignée à l'avance à savoir combien il y avait de combats qui nous séparaient. Il y en avait 3, donc 3 combats, c'est ce qu'il me faut pour m'échauffer. Mmh. À partir de ce moment-là, je savais que je pouvais être dans les gradins et non pas crier pour Tony, mais au moins être là par la pensée et le regarder en direct boxer. J'en avais besoin, j'étais prête de toute façon, tout était prêt, j'avais les bandages contrôlés, le casque réglé, et il suffisait juste qu'il gagne pour me mettre sur la bonne voie.
Une dernière chose, Estelle, Tony nous a un peu expliqué ce qu'il allait faire maintenant, passage en pro, etc. Pour toi, c'est quoi la suite là?
Pour moi, la suite, pour l'instant, je ne passe pas pro, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé ma compétition au jeu, donc peut-être une autre Olympiade derrière. J'ai 24 ans, j'ai tout l'avenir devant moi, je pense, et j'ai le temps de de réfléchir un peu à ce que je veux faire et à ce que sera la suite. Et je sais que je ne suis pas au bout, en tout cas, de ma carrière sportive.
Très bien. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un heureux mariage. Ça ne devrait pas être trop difficile, je pense. Hein.
Merci, c'est sûr, avec deux médailles d'or.
Merci et bravo à tous les deux, Tony Yoka, Estelle Mosselli. Et bravo à toute l'équipe de France de boxe qui aura été vraiment la révélation, le moment de fraîcheur de ces Jeux et qui aura enchanté toute la France et tous les Français. Merci à tous les deux. Et merci à Pierrick Ten aussi de vous avoir réunis au micro de l'intégrale Rio 2016.
Voilà, Tony Yoka et Estelle Mosselli, alors que la cérémonie de clôture continue ici, les athlètes entrent sur le terrain du Maracana. Ici, on a vu les Français emmenés par Teddy Riner. Et Olivier Giraud est avec son vieux pote Jérôme Fernandez. On t'avait dit de ramener les potes.
Ça vieux comme ça. C'est le leitmotiv. Dès que tu parles de handballeur, tu parles de vieux. C'est quoi ce délire?
Bah, n'empêche que vous, les vieux, vous avez fait mieux que nous.
Ah, c'est pas bien de parler comme ça.
C'est pas classe.
Tu sais qu'on a
même moins fait.
Pendant très longtemps, on a fait moins bien que les nouveaux. Parce que nous, nos premiers jeux, on a fini 8e, on a fini 6e. Eux, ils commencent, les jeunes, direct, médaille d'argent. Tu vois, c'est faut prendre dans le bon sens aussi.
Exactement.
C'est vrai. Bon, Jérôme, deux médailles d'argent, c'est quand même des jeux très réussis pour l'heure, malgré tout. Voilà.
Ah oui, non, c'est sûr que c'est presque parfait. C'est presque parfait. Deux équipes en finale vendredi. Et on espérait tous deux médailles d'or. Malheureusement, ça a été deux médailles d'argent. Alors ces deux médailles n'ont pas forcément la même saveur, hein, parce que je pense que pour les filles, elle a une saveur particulière, vraiment ouais, positive. Je pense qu'on leur aurait dit ça au début du tournoi, elles auraient signé tout de suite. Pour les garçons, je pense que si on leur avait proposé une médaille d'argent avant de commencer la cérémonie d'ouverture, ils auraient dit non, on vient pour l'or. Et c'est vrai que pour les garçons, ça reste quand même une petite déception, parce que ces Danois aujourd'hui, ils ont été meilleurs que nous.
Est-ce qu'il fallait pas, Jérôme, aller s'occuper particulièrement de Mikael Hansen dès la première mi-temps? Un peu à l'ancienne, quoi.
Ouais, bon, après on peut refaire le match, on est tous un peu coach. Effectivement, il y avait peut-être des choses à faire. Il y a des choses qui auraient pu être tentées, qui n'ont pas été faites, mais bon, je pense que pour reconnaître aussi la supériorité des Danois sur ce match, je pense que nous, surtout de notre côté, ce qui nous a manqué, c'est un petit peu d'essence, hein, un petit peu de carburant. Et finalement, ce dernier match, même si c'était une finale, on a eu du mal à le finir, parce que quand on voit Nicolas Karabatic qui demande de lui-même de venir se reposer sur le banc au bout de seulement 20 minutes de jeu en première mi-temps, c'est que vraiment les organismes étaient vraiment au bout.
Bon, juste une nuage là, parce qu'il y a les Français là qui sont en train de mettre le feu au Maracana là. Je sais pas s'ils ont vu de la caille pyrénéenne dans le bus en venant du village olympique, mais c'est les plus fous depuis le début de la cérémonie de clôture là, les délégations françaises. Il y a Guigou qui a poussé un petit coup de gueule tout de même. Alors pas contre un petit coup de gueule concernant ce changement de règle de dernière minute là, avant le tournoi. Donc oui, la nouvelle règle qui permet à une équipe de faire jouer 7 attaquants en sortant le gardien de but. Il dit ça dénature le handball, dit Mickaël Guigou, et il espère qu'on va l'annuler tout simplement et qu'on va revenir en arrière. Vous en pensez quoi, vous?
Je pense qu'ils reviendront jamais en arrière, tu sais, les fédés internationales, les instances internationales en général, quand elles prennent une décision, elles ne reviennent pas très souvent en arrière. Ouais. Et le fait est que ça dénature le jeu, mais surtout pour l'équipe de France. Ce que ça dénature pour moi le plus, c'est que moi j'ai vécu dans un handball physique de contact, un handball d'homme où il fallait se rentrer dedans, il fallait que tu sois un bonhomme avant pour pouvoir mettre la tête et mettre un but. Aujourd'hui, ce que ça apporte, ça apporte un jeu totalement différent, d'évitement, de prise d'espace, avec des supériorités qui font qu'on a pu aller au combat vraiment. On a vu les Danois en première mi-temps qui jouent à la baballe carrément, en attendant qu'il y ait une situation qui se libère. Ce qui me gêne juste, c'est
il y a des buts, il y a du spectacle. Dans quel cerveau tordu c'est né ce truc, vous le savez, vous, ça sort d'où?
Il y a plein de règles qui sont tordues, pas que dans notre sport. Hein.
Ouais, mais, oui, mais bah écoute, ce qui est dommage, c'est que surtout, c'est qu'on n'ait pas eu le temps de s'y préparer. C'est-à-dire qu'une règle aussi importante que celle-là, des équipes ont décidé de l'utiliser à fond dès le début, et que c'est un jeu différent auquel il faut s'adapter. L'équipe de France a essayé de s'y adapter du mieux qu'elle a pu, pas en la jouant, mais en essayant de la contrer avec beaucoup d'activité. Mais comme on avait dit lors de la demi-finale, ça dépense énormément d'énergie pour contrer ce type de défense. Il faut mettre de l'activité, il faut défendre en tiroir, comme on l'expliquait, avoir énormément de mobilité, utiliser tout ton effectif, et tu t'aperçois, comme l'a dit Jérôme, qu'à la fin, il te manque un petit peu d'énergie quand même.
Ouais, il y a ça, et puis c'est surtout un système de jeu, en tout cas une règle qui correspond bien mieux aux Danois qu'à nous, parce que les Danois n'aiment pas recevoir des coups, et là où l'équipe de France est performante depuis maintenant plus de 20 ans, c'est qu'elle a souvent gagné ses compétitions dans le combat, dans le 1 contre 1, le duel, et on fait mal aux adversaires, on les fatigue, on les fait reculer, on les empêche de jouer. Et là, les Danois, le fait d'être à 7 contre 6, comme l'a très bien expliqué Olivier, chacun a un intervalle, et c'est très difficile d'aller les toucher, parce que si tu veux aller en toucher un, y en a un qui se retrouve tout seul, et ils ont une telle qualité de transmission de balle que finalement, à chaque fois, ils trouvent la solution.
Alors là, un petit chiffre, les Danois, en première mi-temps, ont joué 10 minutes sans gardien. Voilà. Ouais, c'est un tiers de la mi-temps sans gardien. C'est quand même incroyable.
Forcément, c'est vrai que c'est cette nouvelle règle amène des statistiques un peu bizarres. Maintenant, les Danois ont quand même pris des buts directs quand on a su leur intercepter les ballons. Je pense que vraiment le seul problème, c'est que cette règle a été mise en place le 1er juillet et qu'on n'a pas eu vraiment le temps de s'y adapter. Quand ça sera le cas, je pense qu'on arrivera de nouveau à contrer ces Danois.
Ça sera le cas aussi en championnat de France, là. Cette nouvelle règle sera en vigueur en championnat de France dès la reprise.
Et oui, monsieur.
Évidemment. Oui, et je compte bien l'utiliser.
Il a son idée derrière la tête, le jour.
Non, parce que oui, Jérôme, vous vous occupez maintenant d'Aix-en-Provence. Vous êtes coach. Oui. Ça veut dire que stratégiquement, on pourrait aussi maintenant se dire, mais pourquoi prendre deux gardiens? Puisqu'un gardien, finalement, il y a moins de temps de jeu pour lui. Est-ce qu'on fait pas l'équipe différemment? Enfin, ça peut avoir des conséquences aussi dans la façon de préparer les matchs et de gérer son effectif.
Le fait est qu'en plus cette année on va passer à 16 joueurs de champ, 16 joueurs sur le banc, sur la feuille de match au lieu de 14. Ouais. Donc effectivement on va peut-être pas enlever un gardien, parce que si le gardien titulaire n'est pas en réussite, il faut le changer et mettre l'autre, ou il se blesse. Mais par contre on va pouvoir peut-être mettre trois pivots, et sur ces trois pivots avoir des séquences où justement on met deux pivots dedans et cinq joueurs autour, et finalement ça va être profitable à l'équipe qui sera le mieux utilisé. Mais après, certes, les Danois le maîtrisent très bien, mais c'est pas tout le monde.
Je suis pas sûr qu'en LNH, sans leur faire offense, tout le monde ait la qualité de passe du jeu.
Exactement.
Danois, parce que si t'as pas la capacité à garder le ballon et à jouer à la baballe mais en allant vers le but, et puis en sachant faire des passes transversales au millimètre près, je peux te dire, ça fait gamelle de l'autre côté, hein. Tu peux prendre une bonne raclée aussi.
Alors il y a deux choses chez les Danois qui font vraiment la différence, c'est bien sûr leur qualité de passe, leur qualité de transmission de balle, mais il y a aussi cette faculté qu'ils ont, tous les arrières danois, à tirer vraiment parfaitement en appui dans l'intervalle. Donc ils prennent la balle très très vite, ils tirent très très vite et de manière très précise. On a vu beaucoup de shoots aujourd'hui qui ont fait poteau rentrant, et ça c'est grâce à la qualité des poignets de Mikkel Hansen, de Morten Olsen.
Morten Olsen nous fait très mal.
Et ouais, il nous fait très très mal sur ce jeu-là. Après, moi personnellement,
ça te fait pas chier que Morten Olsen lui mette la raclée alors que c'est un Canada Dry dans le championnat de France?
Ah, il a fait quand même.
Je rappelle, il a joué dans le championnat de France.
Non, il a fait
le mec, c'était Jean-Michel Morten Olsen. C'est-à-dire, tu regardais jouer, il joue en marchant, il y a rien qui passait. Le mec, il arrive là, il arrive. Et c'est un extraterrestre, il met des chutes de partout, ça rentre.
Ah, c'est vrai qu'il a fait une très très belle compétition.
Il y a un truc aussi, j'aimerais votre réaction sur les filles, parce que toi-même Olivier, tu disais j'ai été finalement en féminin, c'est pas forcément le truc, tu n'étais pas forcément un grand fan.
Je me suis jamais caché que je vais pas voir de match de hand féminin, et que.
Et là en fait t'as adoré.
Franchement, je me suis régalé. Ces filles-là m'ont régalé. Honnêtement, j'ai pris du plaisir à les commenter, j'ai pris du plaisir à les voir jouer, j'ai pris du plaisir à les voir monter en puissance, et surtout avoir cette cohésion, ce truc, cette envie de jouer. À un moment, Alexandra Lacfaber, elle me répond tout simplement, elle me dit, mais t'as pas trop de pression par rapport au quart de finale? Elle me dit, non, aujourd'hui, l'important pour nous, c'est de prendre du plaisir. Et je pense que dans le sport de haut niveau, à un moment, on a oublié cette donnée. c'est on parle toujours de gagner, aller chercher l'or, mais une des données importantes pour progresser, aller chercher l'or, c'est de s'amuser, c'est de ne pas oublier que le sport avant tout, quand on en fait gamin, c'est pour s'amuser. Si on progresse gamin, c'est parce qu'on prend du plaisir, et ces filles là elles ont pris du plaisir, et honnêtement, et je te le dis, elles m'ont donné du plaisir à les voir jouer.
Tiens, Jérôme, avant de vous quitter, là, quel était votre moment préféré là, de ces Jeux Olympiques? Il y a le hand, mais il n'y a pas que le hand, vous avez regardé un peu tout, j'imagine.
Ouais, il y a pas mal de moments hein, qu'on pourrait ressortir. Moi, j'ai bien aimé le geste du Usain Bolt avec De Grasse sur les 200 mètres. Quand il fait exprès de ralentir un petit peu pour l'amener et qu'il batte son record perso. Et en plus, il y avait une belle complicité entre les deux. Ils se sont souri. Et je trouve que c'est génial parce que c'est quand même un sport individuel. Nous, dans le sport collectif, bien sûr qu'on a l'habitude de rigoler entre nous, de rigoler des fois avec l'adversaire quand on le connaît bien. Mais après, dans le sport individuel, ça se fait peut-être un petit peu moins. Et j'ai trouvé l'image vraiment sympa.
Merci Jérôme et bonne saison avec Aix-en-Provence. Donc,
ouais, merci.
Et donc avec peut-être Florent Malou, hein, si vous lui faites faire un ou deux tests, là, puisqu'on en avait parlé l'autre jour.
On va le tester très vite, hein. On va essayer vraiment de le faire venir sur un entraînement, voir à quel niveau il est et s'il a vraiment le potentiel pour aller haut. Mais après, de là à aller rejoindre l'équipe de France et une finale olympique, il y a quand même un gouffre. Hein.
Oui, c'est bien de le prévenir quand même. Parce que... Il avait
je ne sais pas quelles ambitions il a, mais même s'il a pratiqué le handball dans sa jeunesse, il y a une donnée tactique au haut niveau qui est tellement importante et tellement difficile à maîtriser qu'il lui faudra beaucoup, beaucoup de temps pour vraiment devenir un joueur top niveau déjà en France. Quoi.
Merci Jérôme en tout cas, puis bon, on verra ce que ça donne Florent Malodou si effectivement il fait le train d'entraînement déjà avec vous. Si vous lui dites rien, c'est que ça aurait été bof, et si on l'apprend, déjà, c'est que c'est pas mal.
On va lui mettre un short et un maillot, ça sera mieux parce qu'en maillot de bain, déjà, avec la résine, il va être embêté.
Il peut en impressionner quelques-uns quand même.
Non.
Dans le championnat de France, non,
il est sec, il est très bien dessiné, mais il lui manque entre 5 et 10 kilos quand même.
Très bien. Voilà, le message est passé.
Les gens, ça les choque. Mais ils ont l'impression que Florent Manodou, c'est un armoire monumental.
Ouais, j'aimerais bien voir une photo avec Nicolas Karabatic et Florent Manodou à côté.
C'est un enfant de 4 ans à côté de Karabatic.
Bertrand Gilles à l'époque aussi, il avait
Bertrand Gilles.
Bertrand est moins grand.
Le problème, c'est que Bertrand, quand il est encore à 1 km, ses pecs, ils étaient déjà arrivés. Donc, tu vois, les mecs, il faut voir un peu de temps quand même.
Il faut casser le bus pour passer à Lille.
Bah, tu nous feras la photo quand même pour qu'on voit le comparatif.
Entre Florent et Nico?
Ouais.
Non, il n'y a pas de comparatif.
Isabelle, tout de suite, dès qu'elle peut gratter une photo de mec à poil,
non, Isabelle. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on est quand même pas mal lotis avec nos Français.
Merci Jérôme.
Demander au dieu du stade.
Merci Jérôme, en tout cas, à très bientôt sur RMC. Isabelle, t'es venue avec une copine?
Ouais, je suis venue avec une grande copine, Emine Ndong, médaillée d'argent en basket, et qui a suivi en plus tous les jeux. Hein. Finalement, toi, t'étais là quasiment tout le temps.
Ouais, je suis arrivée sur le début de la première semaine, et j'ai eu effectivement le plaisir de pouvoir suivre.
Très handball et très basket.
Oui, forcément.
Normal.
Ouais, alors avec le hand, on est un peu cousins, donc j'aime beaucoup, et forcément, j'ai été voir dès que je suis arrivée tous les matchs des filles et des gars, voilà, pour les encourager, pour les supporter.
Et alors le petit bilan sur le hand féminin, masculin,
le hand, c'est vachement bien, voilà, pour les filles, je suis hyper contente pour elles partent quand même de loin, ça a été difficile, voilà, et si on remonte à il y a 6 mois, l'équipe était très très compliqué avec un changement d'entraîneur, enfin voilà, je pense que tout le monde est un peu courant de la situation, et ce qu'elles ont réussi à construire, c'est vraiment beau, c'est fort, elles ont été le chercher tout seules, et vraiment il faut leur tirer le chapeau parce que c'est pas évident dans ces conditions là de ramener une médaille d'argent, et elle est vraiment belle cette médaille d'argent, voilà, pour les filles, donc je suis fière, je suis vraiment très contente pour elles, et puis les gars, c'est ce qui est compliqué, c'est que tout le monde veut les voir toujours au sommet. Tout le monde croit que c'est facile. Tout le monde pense qu'avoir une médaille d'or autour du cou, c'est quand on s'appelle équipe de France de handball, on claque des doigts et ça arrive comme ça. Sauf que c'est pas le cas. Eux, ils le savent, le staff le sait, le public s'en rend compte aussi. C'est qu'il y a un adversaire et que parfois l'adversaire peut être meilleur que soi. Donc ils ont, je pense. Alors après, je suis pas experte.
T'es pas experte, mais en tout cas, ce que tu dis, c'est
exactement ça. Ouais.
C'est tout simplement tout juste.
Et voilà, ils ont fait un très beau match. Et puis en l'espace de 5 minutes, il y a eu un écart. Et j'avais rarement vu ça quand même, parce qu'ils se sont pris 4-5 buts.
Exactement.
D'écart. C'était hallucinant, totalement. Et donc à partir de là, ça a été plus que compliqué. Et ils se sont battus jusqu'au bout. Et c'est une très belle équipe de France. Donc voilà, moi je. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sent leur déception, mais on sent aussi la fierté qu'ils ont de ramener cette médaille d'argent, parce qu'ils savent le travail que c'est de ramener ça. Donc voilà, je pense que comme tout le monde, on est un peu déçus pour eux, parce qu'on voulait qu'ils ramènent cette médaille d'or. Mais c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on l'obtient forcément. Voilà.
Evelyne, concernant l'équipe de France féminine de basket,
oui.
Alors quatrième, on dit souvent que voilà, c'est la place la plus frustrante et tout. Enfin, faut quand même rappeler, je sais pas ce que tu en penses, que c'est quand même un tournoi réussi vu l'équipe qui a été totalement renouvelée, l'absence de dernière minute de Céline Dumière. Être quatrième, en fait, c'est vachement bien, non?
Non.
Voilà, t'as ta réponse.
Voilà. Non, mais c'est oui. Alors c'est bien quand on fera le bilan, quand on réfléchira à peut-être reposer dans 3 semaines, 1 mois, on dira ouais, c'est bien cette quatrième place. Sauf que c'est la place du con, et ça restera toujours la place du con qui est au pied du podium et qui a pas de médaille. Et les filles, forcément, elles sont déçues, parce que oui, on part avec un contexte où l'équipe est renouvelée, où par rapport à 2012, voilà, il en reste que 3, il me semble, ouais. Avec des jeunes, avec Céline qui se blesse l'avant-veille du début du tournoi. Sauf que malgré ça, elles arrivent quand même à décrocher ce quart de finale, à aller en demi-finale. Et quand on part comme ça, on se dit ben voilà, elles se disaient réellement qu'elles avaient rien à perdre. Elles n'espéraient peut-être pas grand-chose, sauf que quand on y est, on espère énormément. Et que quand on a joué cette petite finale et que on peut toucher du doigt la médaille, et qu'au bout du compte, parce que ce jour-là elles étaient moins bien et qu'elles ont peut-être aussi péché par tout ce qui fait cette équipe de France, c'est-à-dire à la fois la jeunesse, le fait qu'on ait peut-être un petit peu tiré sur leur organisme à cause des blessures, le contexte, l'environnement, enfin plein de choses, elles finissent quatrième et encore une fois contre l'équipe de Serbie contre qui elles ont perdu en finale du championnat d'Europe l'an dernier. Donc forcément, c'est extrêmement frustrant. Maintenant, oui, c'est bien d'être quatrième sur ces Jeux Olympiques, mais aujourd'hui c'est plus de la frustration et de la déception pour elles. Et de ma part, c'est de la fierté d'avoir vu le parcours qu'elles ont réussi à faire ensemble.
Merci beaucoup Emeline Ndong d'être venue, d'être passée nous voir. Et Olivier, Emeline a quand même réussi un truc dans sa carrière, c'est qu'elle a quand même vécu pendant 15 ans à Bourges.
Tu sais que moi j'ai des basketteurs français, ils arrivent à me faire croire que Limoges c'est bien, quoi. Je suis désolé, ouais, c'est une super équipe de basket. Tu vois, moi je suis toujours franc. Je suis allé à Limoges quelques fois, je m'emmerde un peu là-bas quand même, à tout dire. Félicitations.
Non, mais il faut savoir que quand on vit 15 ans à Bourges, on finit quand même par se faire des amis.
Bah, en fait, voilà. Quand tu vis 15 ans à Bourges, t'apprécies vachement de voyager aussi.
Ça dépend.
Voilà. On va se faire des potes à Bourges.
Je vais me faire démonter par les gens de Limoges.
C'est possible.
Mais ça va aller super tard. Tu sais pourquoi? Il est très tard en France.
Il est 1h46 du matin et on nous écoute sans doute encore énormément à Bourges à cette heure-là. Merci
Emeline.
Merci Emeline en tous les cas. Bonne soirée. Olivier, tiens, je te laisse aller boire un petit coup là, au Club France tranquillos. Reviens avec des potes à toi tout à l'heure dans quelques minutes, parce que là, ils sont arrivés. Nicolas Jamin et Georges Quirino, messieurs dames. Ah, ils sont là, les mecs. Voilà, vous étiez où?
Vont buvez un coup là, moi j'ai une feijoada en bas, quoi, on est pas envie de travailler.
Alors moi j'ai mis 4 heures à venir du parc olympique jusqu'ici, c'est-à-dire presque la moitié d'un Rio Paris finalement. C'est ça qui est extraordinaire. Donc impossible de rouler. Grotesque, situation grotesque pour rejoindre le Maracana. Mais on est là, on n'y croyait plus. On est bien là.
Non, mais ton taxi il est passé par Brasilia, c'est quoi l'histoire?
Ah non, je sais pas. Bah, alors en fait il y a toute la délégation qui est arrivée du village olympique également et qui avait les escortes. Et donc c'est impossible de circuler à Rio actuellement. Voilà, donc même pour se rapprocher du Maracana, le taxi vous laisse à 2 km autour du Maracana. Il y a des militaires un peu partout qui bouclent la zone. On est dans une ville inaccessible ce soir.
Alors, qu'est-ce qu'on a loupé, Gilbert?
Bah, alors vous avez raté un hymne de Brésilien chanté tout à l'heure pour démarrer la cérémonie. Et puis depuis, à part le vaste bordel sous nos yeux là, où tous les athlètes rentrent en faisant la fête, en faisant à peu près n'importe quoi devant les caméras.
On dirait la fête de la musique à Paris.
On dirait, voilà. Et surtout, il pleut des
avec
cornes.
La même météo. Ouais.
Donc les athlètes, on leur a distribué à tous des
ponchos.
Des ponchos. Des milliers de ponchos qui sont distribués. On a vu les Français très en forme.
Comme Teddy.
Teddy Riner, on les a vus danser. Je sais pas où ils sont passés là, parce que maintenant, comme ils ont tous les ponchos sur eux, on sait plus qui est qui. Donc,
alors, à mon avis, il y a eu du brassage pendant ces trois semaines au village olympique.
Oui, alors il paraît qu'il y a des
149% d'activité sur Tinder en plus.
Ah oui?
Ouais, 149%, plus 149% d'activité sur Tinder.
Et alors une information, une dépêche AFP qui nous révélait il y a quelques heures qu'un conduit d'égout du village olympique a été bouché par des préservatifs.
Voilà, tu vois. Il y en avait 45 000, il ne peut en rester beaucoup.
Oui, mais déjà qu'il ne faut rien laisser tomber dans les toilettes au Brésil, hein. Même oui, le papier hygiénique.
À Rio, on ne met pas le papier dans les toilettes. Non, on met le papier dans une poubelle à côté des toilettes.
Exactement. C'est une façon de voir les choses.
Mais du coup, tu as eu du mal à t'y faire?
Ah, je ne me suis pas fait, tout simplement. J'étais dans l'illégal.
Ah, très bien. Voilà.
Bon. Ah, non, mais ça a cartonné Tinder. On a même vu des athlètes français sur Tinder. Je te jure, on a vu des Français sur Tinder. Oui, monsieur.
Ah, d'ailleurs, il y a un truc absolument horrible. Il y a quelqu'un sur Instagram, on ne sait pas si c'est un athlète ou pas, qui a recensé tous les athlètes qui étaient sur Tinder. Donc, il y avait des athlètes français. Hein, on ne va peut-être pas les citer, même s'il est tard. Mais il y avait des athlètes français, notamment.
Le problème, c'est que certains sont maqués. Quoi. Voilà. Dans le lot.
Certains médaillés français.
Oulala. Attends, écris-moi les noms.
Tu veux que je montre les photos?
Bon,
il y avait Ryan Lochte par exemple, tu vois, pour les États-Unis. Ryan Lochte qui a fait un scandale autre, mais qui était notamment sur
puisque
Tinder.
Vous êtes des utilisateurs réguliers, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est Tinder,
Nicolas?
C'est un site de rencontre entre hommes et femmes. Tu rentres un périmètre de distance en fait, et un âge, une tranche d'âge. Pas, tu peux mettre 22, 28 ans.
Ouais.
Moins de 18
ans. Alors, 45 par
voilà.
exemple.
Voilà. Et il t'offre une sélection de femmes ou d'hommes qui te plaisent. Et tu balayes l'écran vers la gauche si tu trouves la personne charmante, sémillante. Tu vas à la droite, tu la trouves dégueulasse.
Et ça avait déjà fait un carton à l'époque. C'était à Sochi il y a 2 ans, au village olympique en Russie. C'est là que ça avait vraiment fait un boom. Je sais pas si tu t'en souviens, Gilbert, il y a 2 ans. C'est là que l'application était sortie et on avait vu beaucoup de skieurs français également être présents sur le réseau.
Donc c'est un mode de drague ultra direct.
Oui, mais en même temps, ça a toujours été le cas au village olympique. Ça a toujours été un endroit de rencontre. Donc ça facilite les choses.
Les villages olympiques dans leur histoire ont toujours été des bénévoles géants.
Donc en fait, le 18e étage de la tour de l'équipe de France, tu rencontres une Polonaise du 2e étage de la tour de la Pologne. Un quart d'heure après, tu peux être dans sa chambre, peinard, quoi. C'est vraiment ça.
Bah, disons que si tu rencontres une Polonaise au 18e étage de la tour de l'équipe de France, déjà, c'est étonnant qu'elle soit là.
C'est vrai, t'as raison.
Oui, oui. Elle a peut-être des amis, hein. Ouais.
Sinon, il y en a d'autres qui cherchent des Pokémon.
Je crois qu'on a une délégation américaine, canadienne, hein. Oh, elle est rouge, là. C'est les Canadiens, ça?
Oui, ce sont les Canadiens.
Ils sont venus en masse, hein.
On voit, effectivement, qui ont mis les moufles. Qui ont mis les moufles pour venir. On les a vus, là, équipés. Parce que c'est un temps un peu hivernal, hein, on rappelle ici, puisqu'il pleut sur le Maracana. Donc, on voit tout le monde avec les ponchos, avec les sweatshirts à capuche, avec les chapeaux, les casquettes. On est en train de danser, mais il manque surtout les parapluies là pour cette soirée ici au Maracana.
Alors, c'est une cérémonie qui dure 3 heures, donc elle a démarré il y a 50 minutes maintenant. Et là, on est en train d'accueillir tous les athlètes donc qui sont venus du village olympique par un cortège qui a bloqué Georges pendant 4 heures. Donc, et après, on va avoir les moments traditionnels de cette cérémonie, les drapeaux qui vont se baisser, la flamme qui va s'éteindre, le passage de témoins avec Tokyo 2020. D'ailleurs, il y a énormément de journalistes, de médias japonais ici ce soir parce qu'évidemment, pour eux, ça marque le début de l'aventure.
Écoute, à rebours.
Tokyo 2020.
Et d'ailleurs, pendant l'ensemble des Jeux olympiques ici, je sais pas toi, Nico, je sais pas toi, Gilbert, mais j'ai vu souvent sur les sites des représentants de Tokyo 2020 oui. qui étaient là à 10 ou 15, qui venaient observer un peu les installations. Exactement. Et comment ça se passait en repérage à 4 ans des Jeux.
Alors, dans les 2 heures qui viennent, on va également se remémorer quelques-uns des grands moments de ces Jeux, quelques directs importants. Également se rappeler quelques moments de rigolade. J'ai recensé les déclarations les plus hallucinantes qu'on a entendues à l'antenne depuis le début de ces Jeux Olympiques, et on fera un petit quiz tout à l'heure.
Ça va pas nous mettre en valeur.
Vous allez devoir trouver qui a dit quoi.
Mais avec le son ou juste
Non, non, juste la phrase. Je donne la phrase, vous devez me dire qui l'a dit.
Tu veux dire que t'as recensé ça pendant 3 semaines là?
Non, non, non. Là, je me suis fait ça à l'arrache pendant une demi-heure en vous attendant tout à l'heure. Tiens, quelques médaillés justement qui sont passés nous voir au Club France. Les médaillés de la planche à voile, c'était là aussi un moment important du des Jeux. Charline Picon, médaillée d'or. Pierre Lecoq, médaillé de bronze. Ils étaient tous les deux avec nous au Club France. Il y a quelques jours maintenant, on va réécouter bien sûr leur joie parce que évidemment c'était une compétition au long cours sur plusieurs jours de régate. Et donc tous les deux ont terminé sur le podium. On réécoute Charline Picon et Pierre Lecoq, médaillé en planche à voile. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut considérer que les Français sont les kings de la planche à voile?
Oh, clairement.
C'est fait, c'est bon. C'est validé.
Voilà, c'est effectivement réglé. Surtout qu'en plus, vous avez tous les deux eu d'illustres prédécesseurs. La plus récente étant Faustine Meret en 2004 à Athènes, qui avait aussi été été médaillée d'or. D'ailleurs, Charline, vous étiez au Club France juste quelques jours avant les Jeux. Je me souviens très bien. Et vous étiez à peu près sûr de votre force.
Oui, j'étais sûre de mes forces techniques, mes capacités à faire une médaille d'or, c'était sur le papier, c'était possible. Après, on a eu une semaine compliquée. Vraiment, on a eu des conditions, comme disait Pierre tout à l'heure, on a passé près de 100 jours sur le plan d'Audrio à tout analyser. Et au final, cette semaine olympique, on a eu des conditions assez différentes. Donc des trucs qu'on n'avait jamais rencontrés, qui nous a mis à rude épreuve.
Pour rentrer dans les détails techniques, c'est quoi? C'est le vent,
c'est... le vent, des directions de vent inconnues au bataillon, quoi.
Bon, eh ben, ça ne fait qu'en plus rajouter de la valeur à vos médailles alors, parce que vous avez su vous adapter, Pierre.
Ouais, bah c'est vrai que il a fallu se remettre en question vraiment tous les jours là. Tous les jours, ça changeait de conditions, ça changeait de clients devant aussi, parce que voilà, il y avait des mecs qui avaient des spécificités en certaines conditions, d'autres qui étaient plus à l'aise avec certaines orientations de vent, certaines forces de vent. On a eu aussi une journée à l'extérieur de la baie, donc avec énormément de houle et des conditions très techniques. Donc c'est vrai que là, il fallait vraiment être, on le savait hein, qu'il fallait être polyvalent sur ce plan d'eau là, mais là cette semaine encore plus que d'habitude, quoi.
Charline, quand vous êtes dans cette régate décisive là et qu'à la fin vous pompez là, on vous voit chercher le vent, là vous savez exactement où vous en êtes par rapport aux autres ou pas du tout?
Ouais, non, si, en fait j'étais en égalité de points avec la chinoise avant la medal race et les autres je savais que c'était presque bon, donc je savais que je bataillais pour l'or et après
voilà, et ça a frotté même à un moment avec la chinoise.
Ouais, c'était hyper chaud jusqu'au bout. C'est les chinois, c'est des bêtes de pumping, donc il a fallu s'accrocher sévère, mais au final j'ai réussi à la maintenir, donc ça je suis assez fier de moi là-dessus.
Bon, bravo pour tout ça. Deux médailles déjà pour la voile olympique, dont une en or donc pour Charline. Pierre, vous, est-ce que le bronze vous satisfait ou est-ce que vous avez quelques petits regrets?
Non, je suis amplement satisfait avec une médaille de bronze. Je venais ici, mon objectif c'était de faire un podium. J'ai vécu une semaine qui a été compliquée, il a fallu vraiment rien lâcher et je crois que là c'est vraiment la leçon que je retire de ça. C'est que tous les jours, voilà, faut, c'est les Jeux Olympiques. On m'avait prévenu que c'était une régate à part, et là, ça s'est vraiment vérifié. Chez nous, en planche, là, il y a vraiment les deux premiers qui ont survolé les débats. Le champion olympique sortant de Londres qui remet le couvert ici. C'est un doublé historique. Ça avait jamais été fait en planche. Et celui qui empoche la médaille d'argent, c'est sa troisième médaille aux Jeux Olympiques, sachant qu'on peut en faire qu'une par édition. Voilà, c'est dire l'expérience du bonhomme. Pareil, c'est historique. Donc voilà, j'ai pas à rougir de cette médaille de bronze. C'était mes premiers Jeux Olympiques et voilà, c'est sûr que de voir la médaille d'or juste à côté, ça donne des idées et je sais qu'il y a encore moyen de progresser dans plein de domaines. Donc voilà, je suis super content.
Donc vous remettez le couvert à Tokyo tous les deux?
Je sais pas moi.
On verra un peu de repos déjà, profiter de tout ça et après on verra.
Voilà pour les deux véliplanchistes médaillés. Dans quelques instants, Thomas Bouaille nous rejoint avec Isabelle Severino. Juste avant, je vous lis quelques tweets parce qu'on en reçoit encore ce soir sur le hashtag RMC Live. Pas mal de tweets de fidèles de nos nuits olympiques. Il y a Mohamed qui nous signale que Taoufik Makhloufi, Nico, a offert une de ses médailles d'argent à son compatriote Larbi Bourada, le cinquième du décathlon. Qui a battu le record d'Afrique du décathlon d'ailleurs. Et donc,
quatrième de décathlon, Borada, qui avait été suspendu pour dopage, quand même, on le rappelle.
Ouais.
Et comme Bakufi a deux médailles d'argent, il en a fait une à son pote. Il en a deux, les deux mêmes.
Ouais, enfin, en général, tes médailles olympiques, tu tiens, tu les. Enfin, je sais pas, tu.
Mais c'est un homme généreux, Gilbert, peut-être,
Bakufi. Bon, ben voilà, il a fait ça.
Mais d'ailleurs, il est le porte-drapeau, hein, Borada, hein, de l'Algérie, aujourd'hui.
Et puis Laurent qui envoie un message à Olivier Giraud, il lui dit moi j'habite à Limoges il avait l'air plutôt de prendre bien les petites piques d'Olivier tout à l'heure. Et il nous dit et pendant ce temps-là Gilbert fait genre il connaît pas Tinder alors qu'il y est sous le pseudo Afterfoot.
Afterfoot en France.
Voilà. Pas sûr que ça marche sous le pseudo Afterfoot.
Bon. Non, pour les filles, le foot c'est un peu rédhibitoire quand même. Hein.
Pas au Brésil.
Effectivement, t'as encore un jour.
Toi Isa, tu connais Tinder ou pas?
Ah bah évidemment. Moi je suis célibataire.
Ah mais tu peux être célibataire et ne pas connaître Tinder, ou ne pas pratiquer Tinder aussi.
Bah si, j'ai un bar, je travaille la nuit, j'ai un peu de mal à rencontrer les gens.
C'est très pratique, on est d'accord.
Bienvenue dans mon canapé pour la psy.
Mais en fait, voilà, pour beaucoup de gens, c'est encore tabou. Regarde, ce qu'avait dit Pierre-Ambroise Boss avant les Jeux, j'avais noté ça.
Pierre-Ambroise Boss, un quatrième du 800 mètres olympique, on le rappelle, qui avait dit, je ne vais pas vous le cacher, un mec comme moi, à tout moment, je peux activer Tinder. Je me le suis dit pourtant, tu n'es pas un animal, tu es une personne normale. Notre DTN, Gani Alou, sait très bien que nous sommes des animaux. On peut partir à droite, à gauche, à tout moment. Est-ce que tu es parti à gauche, Isa?
Non mais sérieusement, vers cette conversation. Non mais on le fera off si vous voulez, mais non, je sais que ma grand-mère peut-être qui nous écoute à 2 heures.
Tu rigoles, ils sont des millions là.
Bah écoutez, tweetez, hein, moi je suis sur Tinder et il y a ma photo, il y a mon nom, tout va bien. Et si vous êtes sympathique, on ira peut-être boire un café.
Et voilà, le message est lancé. RMC, il est 2h du matin.